Effectivement, c'est une bonne transition avec ce que vient de dire Augusta. Donc moi, je m'appelle Julien, je travaille pour le collectif Survie. Donc on travaille sur la France-Afrique. Donc très rapidement, la France-Afrique, pour nous, c'est le système de continuité coloniale, principalement dans les anciennes colonies françaises par la France. Principalement via son action diplomatique, son action militaire, le rôle des entreprises françaises, le franc CFA, la francophonie, toute la dimension de coopération mise en place. Donc pour nous, c'est un combat complètement actuel, contemporain, qui a connu certaines mutations, mais une grande continuité structurelle, institutionnelle, au-delà du changement des visages qui l'ont incarné. Ça tombe très bien en fait pour nous d'avoir cette discussion-là aujourd'hui, puisque c'est notre principal sujet, campagne en ce moment sur la coopération militaire et la coopération sécuritaire. Il y a pas mal de choses qui ont été dites, c'est ce qui est bien dans le fait de prendre la parole un peu après, c'est qu'il y a des choses qui ont déjà été dites sur la façon dont on peut saucissonner en fait ce qu'on entend par la coopération militaire, la façon dont ça peut être incarné en fait par des acteurs ou des outils différents, que ce soit de l'infanterie, comme l'a rappelé Mathieu au début, que ce soit par les forces spéciales, que ce soit par les renseignements, que ce soit par les officiers de gendarmerie. Et du coup, voilà, il y a tout un panel, malheureusement, d'acteurs et d'outils qui incarnent cette coopération militaire. Et ce qui est important, c'est que historiquement, il y a eu en gros trois phases dans l'outil de cette coopération militaire. Là, je parle vraiment spécifiquement de l'Afrique. Il y a des échos avec ce qu'on est en train de se dire, mais là, quand je parle de phase historique, c'est vraiment sur les anciennes colonies. Donc il y a tout un tas d'accords de défense, d'accords de coopération de défense qui est né au moment de la décolonisation, qui d'ailleurs, dès ce moment-là, était extrêmement intriqué en fait avec les contrats d'exploitation des ressources naturelles. On voit déjà que c'est pour ça que la France-Afrique, c'est un système d'articulation où on peut rarement isoler un des acteurs ou un des outils de la France-Afrique. On est souvent dans une articulation diplomatique, industrielle et militaire. Et du coup, toutes les anciennes colonies autour des années 60 ont été concernées par donc des accords de défense qui étaient considérés comme des accords de substitution. C'est-à-dire que face à un État qui ne pouvait pas mettre en place un système régalien militaire, on était dans cette continuité coloniale avec nos anciennes colonies, comme si c'était un service après-vente ou comme si c'était une continuité presque de l'ordre de la générosité, puisqu'il n'y a pas, on continue à être là, donc on parlait d'accord de substitution. Et ensuite, il y a une phase autour des années 80 jusqu'à 98, en fait, avec l'idée d'un dispositif de récamp qui, là, pour le coup, est au niveau international, qui change un petit peu la doctrine et qui est sur l'idée d'avoir une aide à la formation et à la structuration d'armées africaines. Donc on change un tout petit peu. Officiellement, on change un tout petit peu de discours. On passe de la substitution à la coopération ou au partenariat. Même en termes de vocabulaire, on observe des modifications dans le lexique. Et du coup, le dispositif WICOM, c'est de mettre en place des bases militaires et d'être sur de la formation et de la coopération militaire pour essayer de minimiser la dimension de continuité coloniale, mais tout en disant, voilà, on est sur de la formation. Et donc, on est beaucoup plus sur des accords de partenariat de défense. Et ensuite, on arrive sur une troisième phase, qui est depuis l'époque de Sarkozy et l'époque actuelle, où là, on revient, en fait, sur des principes de substitution, sur des principes de liberté des autorités locales, étatiques, et sur les principes d'indépendance totale sur des prises de décision, sur des commandements d'opérations militaires. Et c'est le cas notamment actuellement en Centrafrique, par l'opération Sangaris, et c'est le cas notamment dans toute la zone du Sahel, via l'opération Barkhane, dont on m'a demandé aussi de dire deux mots. Donc l'opération Barkhane, elle a remplacé et elle a mixé en fait des opérations militaires existantes, certaines depuis un an et demi comme l'opération Serval au Mali, et certaines depuis de très longues dates comme l'opération Sabre au Tchad. Et en fait, donc là, l'opération Barkhane, c'est sur 5 pays, on appelle ça le G5 Sahel. Et en fait, c'est vraiment très très lié avec moi, une dimension que je voulais apporter dans notre discussion collective, c'est le contexte de la lutte contre le terrorisme et à quel point ce contexte-là permet aux États, aussi illégitimes soient-ils au niveau national, au niveau individuel, de se co-légitimer et d'être sur des opérations de coopération de lutte contre le terrorisme. Et ça, on le voit dans les discours, on le voit dans les réponses quand on s'essaye à l'interpellation des élus. On ne le fait pas beaucoup, on ne passe pas beaucoup d'énergie à interpeller nos élus, mais de temps en temps quand même, quand on se dit que dans la réponse, on peut avoir des éléments intéressants pour ensuite les redistribuer, on interpelle certains responsables politiques. Et la réponse qui est faite, c'est vraiment, on est dans un contexte, ce qui prime, c'est la coordination entre États pour la lutte contre le terrorisme. Et forcément, ça a des échos ici en France, au Proche-Orient et en Afrique. Et on est vraiment sur cette dimension-là. Et du coup, ça fait écho avec une autre dimension qui est là, et plus france-africaine, mais qui se télescope, qui est vraiment la question de stabilité des régimes alliés, mis en place, soutenus par l'ancienne puissance coloniale. Et on l'a vu, par exemple, sur le Tchad. Augusta disait, je ne savais pas qu'il y en avait 17, moi j'en avais compté 15, mais je te crois. Nous, on a choisi vraiment de mettre un focus important sur 4 pays, donc le Congo, le Gabon, Djibouti et le Tchad, parce que pour nous, ils illustrent de façon extrêmement importante les problématiques de la coopération militaire actuelle dans un contexte historique long, sur un temps long de France-Afrique, mais sur un temps un peu plus court, qui est la lutte contre le terrorisme. Pourquoi? Et je vais parler du Tchad particulièrement. Donc le Tchad est le régime d'Idriss Déby, qui est un régime clanique extrêmement violent, extrêmement dictatorial. Alors quand on dit ça, des fois ça peut paraître abstrait, mais par exemple il y a une interdiction, une répression des manifestations, ne serait-ce que des rassemblements, donc ça montre un petit peu l'idée de ce qui peut se passer au Tchad. Et en fait le Tchad, depuis le Mali, mais depuis aussi l'opération en Centrafrique, c'est le principal allié militaire de la France. Il n'y a pas un autre pays qui est plus intriqué dans sa politique africaine que le régime d'Idriss Déby. Et quand je vous parle de stabilité, c'est vraiment un principe extrêmement cher à la France. C'est que l'instabilité, c'est-à-dire l'alternance politique, c'est le bordel, puisque ça remet en cause des alliances qui datent de la décolonisation, qui peut-être n'est pas forcément incarnée individuellement depuis des années, mais en tout cas, on a une continuité d'un régime. Et comme en France, on a une continuité de la France-Afrique, quelle que soit l'alternance entre guillemets politique, on est vraiment sur cette idée que ce qui est précieux pour la France-Afrique, c'est vraiment la stabilité des régimes. Et il y a notamment Mediapart qui a réussi à déclassifier un document secret défense, une note diplomatique, et qui disait vraiment, en amont des élections d'Idriss Déby, hein, qui disait il faut vraiment tout faire pour qu'on participe au maintien en place du régime d'Idriss Déby. Pourquoi ? Parce que c'est notre principal allié, la base militaire, le dispositif militaire de toute l'opération Barkhane est à N'Djamena, et avec des parallèles qui sont intéressants à faire entre un bail d'exploitation et un contrat d'exploitation de ressources naturelles qu'on peut avoir par exemple au Niger avec Areva, et le bail ou le loyer d'une base militaire française à N'Djamena au Tchad. Il y a des parallèles qui sont assez saisissants. Et du coup, on est vraiment sur l'idée que ce qui se passe au niveau intérieur, et ce qui pour nous aussi fait très écho à ce qui se passe en France, on est dans un contexte d'état d'urgence, que ce soit en France, en Belgique, mais aussi dans les pays dont on parle ici. Il y a d'ailleurs certains pays, il y a des dispositifs donc d'exception type état d'urgence qui ont été mis en place, qui sont des copier-coller du texte de l'état d'urgence en France, ce qui rappelle aussi tout le travail de juristes et de juristes constitutionnels au moment de la rédaction des constitutions des pays dits indépendants au niveau de la colonisation. Enfin, ça aussi, c'est un parallèle qui est intéressant à faire. Et du coup, voilà, on est sur ce qui prime aujourd'hui, c'est la lutte contre le terrorisme, la lutte coordonnée contre le terrorisme. Et quand nous, avec des partenaires africains, avec des représentants de la diaspora. On interpelle le ministère des Affaires étrangères, on interpelle la cellule diplomatique de l'Élysée. Il n'y a même pas de réponse, de justification ou de langue de bois. C'est-à-dire que ça n'est même pas dans la réponse quand on parle de répression. Quand on parle de... Là, je reviens un petit peu quand je disais la coopération militaire, elle peut être incarnée par différentes personnes, par différents outils, par différents leviers. La coopération militaire, par exemple, au Congo ou au Tchad, c'est des officiers de la gendarmerie française sous uniforme tchadien ou congolais qui sont dans l'état-major de la gendarmerie donc congolaise ou tchadienne. Ces états-majors en question qui récemment autour des élections, c'est pour ça que c'était intéressant de dire que là il y a un contexte particulier qui est les élections, où il y a eu de la répression à balles réelles avec donc encore une fois dans les chaînes de commandement de ces gendarmeries, des coopérants militaires et de gendarmerie françaises sous uniforme tchadien ou congolais. Et pour l'anecdote, qui n'en est pas une, mais je dis ça parce que je vais aller vite, une partie de ça est considéré comme de l'aide publique au développement. Voilà, je savais que ça allait vous plaire. Voilà, et du coup, sur les élections actuelles, on est vraiment dans un contexte qui pour nous est un... Enfin, le mandat de Hollande n'est pas encore fini. D'ailleurs, il va se finir quelques semaines après un sommet Afrique-France pour la sécurité au Sahel, à Bamako, donc en janvier janvier 2017, et qui pour nous sera forcément un temps fort de contre-discours, de contre-analyse de la politique étrangère. Parce qu'on le voit bien dans la Ve République que la politique étrangère, la politique africaine, c'est souvent un enjeu de bilan des mandats. Et là, on est sûr, vu en plus le bilan interne du mandat d'Hollande, on est sûr que, et ce sera repris par les médias, que par contre, la politique africaine de Hollande, elle sera perçue comme positive. Et quand bien même il y aurait des critiques, l'intervention française au Mali, encore aujourd'hui, est considérée toujours comme une intervention réussie. Oui, la Libye, c'est louche. Oui, la Centrafrique, c'est le bordel. Mais quand même, l'opération Serval, là, on ne peut pas nous le nier. Quand bien même aujourd'hui, il y a des journalistes, des journalistes d'investigation, des chercheurs, qui 2 ans et demi après le bouquin de survie, reprennent à peu près les mêmes éléments de critique et disent que, à la fois, les éléments qui ont justifié l'opération Serval en janvier 2013 et les éléments de bilan aujourd'hui sont catastrophiques. Enfin, mais voilà, on sait que nous, par exemple, en janvier, on vous sollicitera, enfin, en tout cas, on fera en sorte vraiment d'avoir un contre-feu sur ce sommet en janvier qui aura lieu à Bamako, parce que ce sera un moment de voilà, un récit officiel qui va faire un regard dans le rétro complètement distordu de la politique africaine. Et donc le lien avec la lutte contre le terrorisme, je viens de le dire, il y a une dimension aussi dans les nouveaux accords de défense aujourd'hui, où il y avait une espèce de petite inflexion au niveau du mandat de Sarkozy. Et à partir de l'opération Serval, donc à partir de décembre 2013, on est sur des nouveaux accords de défense avec la mandature de Hollande. Et là, on revient sur une dimension secrète, non pas qu'elle n'existait plus avant, mais elle est assumée. Et du coup, on est vraiment sur une question de transparence aussi de cette dimension, ce qui fait le lien avec quelqu'un qui l'a évoqué aussi tout à l'heure, avec le Rwanda. Aujourd'hui, on est 22 ans après le génocide des Tutsis au Rwanda, donc en 1994, et on est encore, quand je dis nous, c'est des juges d'instruction, des juristes, des chercheurs, des historiens, on est encore dans l'incapacité d'avoir des documents, des archives qui sont déclassifiés. Et là, je m'éloigne un petit peu, mais en fait, c'est vraiment la question du gouvernement français, de la Ve République, de la dimension complètement... opaque de tout ce qui a trait au nucléaire, à l'armement et à la politique africaine. Et il y a une continuité, c'est-à-dire que c'est un vrai problème actuel, on n'est pas sur un combat historique, on est vraiment sur le fait qu'aujourd'hui, la France peut continuer son récit officiel par rapport au Rwanda, parce que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de documents et il n'y a pas d'instructions qui vont jusqu'à des procès. Alors qu'il y a une quinzaine d'instructions sur lesquelles il y a des parties civiles qui se sont constituées pour aboutir à des procès, mais qui n'aboutissent toujours pas aujourd'hui. Donc il y a une vraie actualité sur la question de la déclassification et sur la question du secret qui se pose de façon très très claire sur le Rwanda, mais aussi sur toutes les questions d'accord de défense et de coopération de défense. Il y a Patricia Adam, qui est la présidente de la commission des affaires étrangères, qui il y a un an et demi a déclaré oui, bien sûr, les accords de défense vont être déclassifiés, et qui le sont toujours pas. Et là où, enfin, ce qui est important aussi dans la déclassification, c'est de montrer, puisque sous le mandat de Hollande et même enfin, pendant la campagne et pendant tout le mandat, on a entendu à peu près toutes les semaines la France-Afrique c'est fini. Puis de toute façon il y a la Chine, et puis de toute façon il y a Israël, et puis de toute façon les entreprises françaises ça n'existe plus puisqu'on est sur un système mondialisé, etc. Donc il y avait plein de contre-feux comme ça, dont certains sont très efficaces en termes de réception, en disant la France-Afrique c'est fini, c'est un peu has-been de parler de la France-Afrique, on n'est plus du temps de Focard, etc. Donc tout l'enjeu c'est de pas dire non c'est comme il y a 25 ans et rien n'a changé, mais tout l'enjeu c'est d'actualiser cette analyse-là. Enfin, d'actualiser cette réflexion-là, de voir qui sont les acteurs qui incarnent la continuité de la France-Afrique et quels sont les enjeux aussi au niveau démocratique, au niveau financier. Et je reviens sur l'opération Barkhane de tout à l'heure. L'opération Barkhane n'a pas été, même évidemment pas votée, puisque la Constitution française ne demande pas que le Parlement vote pour une entrée en guerre, contrairement à d'autres pays. N'a même pas été discuté, contrairement à l'opération Serval qui a été discutée en 2013. L'opération Barkhane n'a même pas été discutée par les parlementaires. Donc les parlementaires n'ont même pas eu à jouer le rôle de valider ou de pas valider. Et donc il y a eu une interpellation du gouvernement par rapport à ça. Et je reviens au lien avec la lutte contre le terrorisme pour vous montrer à quel point c'est impactant en termes de politique de l'État français. La réponse qui a été faite de la part de Le Drian, c'est trois arguments. Un, c'est la suite de l'opération Serval. Donc comme l'opération Serval n'est pas discutée, et comme là, le Barkhane, c'est la suite de quelque chose qui n'a pas fait débat, bah, pourquoi vous voulez qu'on en débatte? Littéralement, hein, j'ai le courrier là, si ça m'intéresse. Deuxièmement, le motif de Barkhane, c'est la lutte contre le terrorisme. Donc, où est le débat? Et troisièmement, Jean-Luc Le Drian, qui répond à Jean-Yves Le Drian, qui répond à Candelier, il répond pas à nous, évidemment, il répond à Candelier, qui est le vice-président de la Commission de Défense, il dit « Je viens vous en parler à la Commission de la Défense ». Donc on en cause. Voilà le niveau de réponse en termes de contrôle parlementaire, du rôle des députés dans ce fond d'écran-là qu'on nous présente comme démocratique, etc. Voilà le niveau actuel du cavalier seul, de l'absence de contrôle, de l'absence de mise en débat et de continuité de la France-Afrique et de sa dimension militaire.
Parce que finalement, en France-Afrique, il y a des mercenaires qui assassinent, etc. Mais la contre-insurrection, c'est pas aussi important qu'en Algérie, j'ai l'impression. Mais sur le Rwanda, ça dépasse, ça prend des dimensions, l'utilisation de médias, peut-être qu'on pourrait...
Ah, moi, je veux bien vous parler du Rwanda, mais c'est dans la discussion collective et sur le lien direct, mais en tout cas, enfin, très rapidement, la complicité de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda, tous les mots sont importants. Hein. C'est-à-dire que par rapport aux médias, en 2014, donc c'était les 20 ans, il y a eu. C'est pas un sujet sur lequel il y a un tabou, sur lequel il y a un silence radio. C'est un sujet sur lequel il y a énormément de production, énormément de bouquins, énormément de gens qui sont considérés comme des experts. Donc il y a une grosse parole en fait. C'est pas du tout un sujet dont on ne parle pas. C'est important ça par rapport à l'analyse du rôle des médias dans ça. C'est pas une absence de débat, c'est le contenu des débats et encore une fois c'est par qui on fait incarner ce sujet-là. Et en fait je dis le génocide des Tutsis au Rwanda puisque le fait de dire ça caractérise ce qui s'est passé, c'est-à-dire un génocide. Un génocide, c'est pas une guerre civile. C'est un génocide, c'est-à-dire le caractère génocidaire, organisé, ethnique, désigné d'un groupe particulier. Et en fait, ça c'est hyper important, ça peut vous paraître évident, mais si je précise ça, c'est que, un, dans les médias, on parle très rarement du génocide des Tutsis en 94. On parle du génocide rwandais. Comme si on parlait du génocide... Enfin, ce serait quoi l'équivalent pour d'autres génocides
pour...
Ouais, c'est comme si on parlait du génocide européen pour la Shoah, par exemple. Enfin, c'est complètement... Et il y a eu un procès, le procès de Pascal Simbi Kangwa en 2014, qui est tombé la même année que les 20 ans de commémoration. Et il y a eu 6 semaines d'audience. Pendant les 2 premières semaines, il y a eu des interventions pour se dire est-ce qu'il y a vraiment eu un génocide ou pas. Mais c'est pas une blague. Donc là, on est sur un procès aux assises, avec 6 semaines d'audience. Pendant 2 semaines, il y a eu des intervenants pour dire est-ce qu'il y a eu un génocide des Tutsis, ou est-ce qu'il y a eu un génocide, ou un double génocide, ou est-ce que c'était une guerre civile. Et ça, c'est un enjeu extrêmement important, parce que si vous déqualifiez le génocide des Tutsis, ben vous il n'y a plus de complices, puisqu'il n'y a plus de génocide. Si vous le banalisez, si vous dites que c'est la même chose qu'avant, c'est la même chose qu'après, c'est la même chose qu'au Congo, c'est la même chose, ben en fait, il n'y a plus de... Où est le problème, en fait? Donc l'idée, ce n'est pas de faire de la hiérarchie, c'est de caractériser ce qui s'est passé, et ensuite, en tant que mouvement français, de se dire quel est le rôle de la France dans ce qui s'est passé. Et pour aller très vite, parce que je ne peux pas résumer ça, mais il y a des complicités qui sont avérées avant, pendant le génocide, juste après et aujourd'hui. Et je finis par aujourd'hui, parce que pour faire le lien avec ce qui nous occupe là aujourd'hui, il y a 2 éléments qui sont extrêmement importants par rapport à ça. Je vous l'ai dit tout à l'heure, donc ça va aller très vite. Le refus systématique de la déclassification des archives. Et là, je suis obligé de faire une petite parenthèse, puisque le gouvernement nous a bien eu l'année dernière, puisqu'ils ont annoncé l'ouverture des archives. Peut-être que certains en ont entendu parler. Ils ont annoncé la déclassification des archives de l'Élysée. C'est faux. C'est faux, et c'est un incroyable bras d'honneur à tous les gens qui luttent pour la reconnaissance de l'État français. Les documents qui ont été déclassifiés l'étaient déjà, et ont même fait l'objet d'un bouquin. Mais sauf que l'espace médiatique, et puis voilà, l'espace aussi, enfin le temps avec lequel on a le temps de se poser des questions sur un sujet est tel que ben, l'info est passée. Et encore la semaine dernière, on a fait une discussion publique sur ça, et il y a des gens qui ont dit bah oui, mais vous devez être content parce que l'année dernière, eh ben non, on n'est pas content. On est vraiment pas content. Donc il y a cette dimension-là, la dimension des archives. Il y a notamment une dame, Dominique Bertinotti, qui est la gardienne des archives de Mitterrand. Hors contrôle constitutionnel, juridictionnel, juridique, etc. Elle est assise sur les archives de Mitterrand, les archives personnelles de Mitterrand. Et un juge d'instruction lui demande, un juriste lui demande, elle dit non. Pendant 50 ans, elle est assise sur les archives de Mitterrand. Bref. Et il y a une deuxième dimension sur la complicité étatique de la France aujourd'hui, c'est le refus systématique des extraditions demandées par le Rwanda. C'est-à-dire qu'il y a un grand nombre de présumés génocidaires, il faut que je dise comme ça, rwandais, qui sont en France, parce que la France est le pays allié du régime génocidaire, qui se sont réfugiés en France. Et donc depuis 22 ans, systématiquement, la France protège, couvre, les présumés génocidaires rwandais en refusant systématiquement les extraditions. Bon, il y aurait plein de choses à dire sur le Rwanda.
Peut-être juste un truc après, qui est peut-être parce que c'est évident pour vous, mais qui n'est pas clair et tout, mais c'est juste de préciser que tant l'armée du Cameroun que l'armée du Rwanda ont été complètement formés par des instructeurs français, des instructeurs militaires français, qui étaient des instructeurs militaires spécialistes de la contre-insurrection. Et que, enfin, tant au Cameroun en 1960, c'est des spécialistes de la contre-insurrection qui ont créé l'armée qui a fait des dizaines de milliers de morts, puis au Rwanda, l'armée qui a été mise en place au début des années 90, qui est passée de 3000 à 40 000 effectifs, elle a été créée par des instructeurs militaires français qui sont justement, comme il disait Mathieu Rigouste, cette partie de l'armée qui a toujours revendiqué la contre-insurrection et l'expérience algérienne.
Un petit point par rapport au génocide de Rwanda. Je crois que c'est très important de dire qu'on a massacré les Tutsis, mais on a massacré aussi les Hutus modérés, même des personnes qui appartenaient à des organisations des droits de l'homme. Pourquoi c'est important? Parce que maintenant, le gouvernement qui est présidé par un Tutsi, quand il parle de génocide, il parle seulement de génocide de Tutsi. Alors, dans ce cas-là, la quantité de personnes mortes diminue. Et si on ajoute tous les Hutus modérés qui ont été tués, c'est-à-dire ça devient plus de 11% de la population de Rwanda dans ce moment-là. Et si on dit que seulement on a massacré les Tutsis, c'est continuer avec le discours de haine du président. Il dit que c'est la réconciliation, que personne parle du génocide, mais c'est encore un discours de haine. On ne peut pas nier qu'il avait des Hutus modérés tués.
Il n'a pas fini, non. La haine n'a pas fini.
Mais non, pas en, au contraire. Et en plus, la femme de Javier Imana, le dictateur qui était au pouvoir au Rwanda jusqu'à le génocide, sa femme, elle habite en France, elle a un asile politique. Elle habite très bien.